Ce qui nous lie est un podcast qui fait lien entre les mondes de la culture et ceux de la gastronomie et de l'alimentation. C'est un espace de liberté qui permet d'aborder ces questions par des angles variés. Parce que notre nourriture est notre culture, parce que la question de l'alimentation est au cœur d'un véritable projet de société, la parole est donnée en priorité à celles et ceux qui s'engagent pour une société juste et respectueuse du vivant. Tous les deux mois, un nouvel épisode est mis en ligne et vous permet de découvrir des femmes et des hommes venus d'univers très différents. Les épisodes de cette 7e saison continueront de donner la parole à des invités qui font le lien entre des pratiques professionnelles artistiques, culturelles ou techniques et les cultures culinaires. Je suis Camille Brachet et mon invitée est Marion Châtel-Chex. Je l'ai rencontrée le 5 avril 2024 chez elle, à Paris. Marion Châtel-Chex est designer culinaire et elle a pris le temps de nous expliquer en détail en quoi consistait un métier très diversifié en termes de réalisation, mais parfois encore mal compris du grand public. Ensemble, nous sommes revenus sur son parcours et sur son passage de l'univers de la mode à celui de la gastronomie, en pointant des rencontres importantes, comme avec Marc Bretillot, designer culinaire et intervenant à l'ESSAD, ou bien Alexandre Gauthier, le chef de la Grenouillère. Marion Châtel-Chex a aussi évoqué les questionnements et difficultés rencontrées au cours de sa carrière, ainsi que la nouvelle direction qu'elle souhaite prendre dans le cadre du développement de son activité professionnelle. Bonjour Marion Châtel-Chex, merci de m'accueillir ici chez vous. Alors j'avais très envie de vous rencontrer car vous êtes designer culinaire, entre autres, on y reviendra. Donc un métier qui me semble à la frontière entre l'art et l'artisanat et qui fait un pont entre la forme et le goût. Vous nous expliquerez que tout est lié. Vous travaillez donc sur la forme des préparations culinaires, que ce soit celle de plats au restaurant ou vous travaillez aussi sur le design des produits, mais aussi sur la conception des dressages, même sur les lieux, les événements, etc. Vous avez aussi produit un podcast, Chef-d'œuvre, dans lequel vous interrogiez des chefs sur leur créativité et leurs influences artistiques. Alors, pour commencer et faire rapidement définir ce que vous faites, en quoi consiste le métier de designer culinaire ?
C'est la grande question qui lance toujours des discussions passionnantes en soirée, quand je donne le nom de mon métier. Alors moi, j'ai l'habitude de plutôt dire que je suis designer au service du culinaire, ouais. C'est-à-dire que je mets le design dans la vision qu'on peut avoir du design, qui est de concevoir des objets ou des formes qui ont une relation au corps, dans le contexte du culinaire. Et dans le contexte du culinaire, c'est un des seuls moments de notre vie où on est vraiment en relation avec nos 5 sens, mmh. en simultané. Donc je viens vraiment travailler là-dessus et au fil des années, j'ai beaucoup réaffiné et recentré mon métier en fait, puisqu'au démarrage, effectivement, je voulais travailler avec des chefs pour créer, la bûche de Noël, ouais. l'œuf de Pâques, et vraiment travailler sur la forme, ou ouais. avec les cahiers de tendances que j'avais créés et d'inspiration, venir les inspirer pour des dressages. Donc là, j'étais vraiment dans la forme de ce qui se passe dans l'assiette mmh. et je venais intervenir vraiment sur leur créativité ouais. à eux. Et j'ai compris en fait que pour réussir à travailler avec les chefs, j'aurais plus de marge de manœuvre et de facilité à les accompagner sur tout ce qui est autour de leurs assiettes. Ouais. Et qui, mine de rien, pour le client, fait partie de l'expérience qui vient vivre dans un établissement, ouais, dans un sûr. Restaurant. Donc, c'est travailler sur tout ce qui va être de l'ordre de la forme, de la mise en forme, de la présentation, de la façon dont on décrit un plat, les mots qu'on utilise, la façon dont on l'apporte au client. Et tout ce qui est aussi de l'ordre de l'imperceptible qui va se passer autour de ça, qui va être perçu par le client. Alors, on est tous sensibles à des sens plus qu'à d'autres. Donc, il y en a qui vont être plus visuels, qui vont faire plus attention justement au dressage, au tableau qu'ils ont sous les yeux. D'autres qui vont se souvenir de ce qu'on leur a dit. Certains vont se souvenir de la texture qu'ils avaient en main avec les couverts ou s'ils ont mangé avec les doigts. Donc, en fait, c'est faire en sorte que tous ces sens qu'on sollicite soient sollicités de façon cohérente pour que, pour le coup, la personne qui est sensible à absolument tout ne ressente pas une faiblesse ouais. ou un grand écart en se disant attends, sur le mur je vois ça et à côté de ça on me dit ça, c'est pas logique, et du coup ça crée un sentiment de se perdre dans un discours qui paraît pas cohérent, alors que c'est juste qu'on n'a pas fait attention que le tableau qui est depuis 5 ans sur le mur, en fait il faut le changer parce qu'il ouais. correspond plus au discours qu'on est en train de
raconter, de ce que raconte la salle.
Donc, c'est vraiment comme ça que je définis, moi, mon métier.
Donc, quelque chose de très global. Mais alors, ce qui est intéressant, là, je vais prendre cet exemple, vous parlez d'un tableau. Vous faites aussi de la décoration d'intérieur pour les restaurants ou pas? Du coup, vous travaillez avec des décorateurs. Comment est-ce que ça se passe? Parce que c'est vrai que concrètement...
C'est là où, effectivement, c'est toujours... c'est un métier qui est encore peu connu et peu compris, et quand je commence à raconter ce que je fais, on me dit ah bah oui, du coup t'es graphiste, t'es décoratrice, t'es...
Ça touche à tout,
en fait ça touche à tout, ça peut toucher à tout. Moi, ce que j'aime aussi, c'est pas forcément partir d'une feuille blanche rêver un projet. C'est presque plus facile en fait d'être cohérent quand on le pense dès le départ. Et j'aime aussi arriver dans un établissement, dans une maison où il s'est déjà passé quelque chose, il y a déjà une histoire, et réaligner ce qui existe pour, en changeant des détails, faire en sorte qu'on se dise, ils ont tout changé alors qu'on a changé que quelques trucs. Ouais. Et alors parfois c'est le tableau, parfois c'est le luminaire, parfois c'est le bougeoir, parfois c'est les fleurs, parfois c'est la vaisselle. Parfois, c'est la panière, ou plusieurs choses de tout ce que je lis. Ça peut être comment on habille les serveurs, l'éclairage. Et c'est arriver à percevoir, en fait, ce qui dénote dans un univers global et le réaligner, mais sans forcément tout changer, en fait. Donc, je ne suis pas non plus décoratrice. Et après, quand il faut changer la couleur d'un mur, là, je vais appeler quelqu'un dont c'est le métier. Parce que je veux dire, moi, je sens que c'est l'ambiance colorée qui ne va pas forcément avec ce qu'on raconte. Je vais aller vers
un professionnel
qui va choisir la bonne couleur. Je veux dire, c'est peut-être du vert ou du bleu, mais le choix d'une couleur dans un espace, c'est très, très spécifique. Donc après, je mets en relation avec des profils aussi qui matchent avec l'identité d'un chef, d'un restaurant, d'une cuisine.
Alors, c'est aussi un métier qui a beaucoup évolué, parce que je pense que ça fait à peu près 10 ans que vous faites ça, si je ne me trompe pas. Il y a 10 ans, vous n'étiez pas très nombreuses à faire ça. Ça s'est quand même ouvert. Les chefs sont de plus en plus ouverts à toutes ces questions, se font conseiller à tous les niveaux, au niveau de la com, à plein de niveaux. Vous avez vu ce glissement et cette arrivée de nouveaux profils, cette concurrence? Comment est-ce que vous vivez ça? Est-ce que ça a un impact sur votre façon de travailler à vous, du coup, sur vos orientations, etc.?
C'est vrai qu'en 10 ans, j'ai vu j'ai vraiment eu la sensation au démarrage d'arriver sur un terrain pas vierge, mais parce qu'il y a quand même Marc Brétillot qui a créé cette notion, ce nom du design culinaire il y a plus de 25 ans. Donc c'est quand même un métier dont on entend parler depuis longtemps, dans un contexte qui est plus de l'événementiel et du traiteur. Ouais. Et moi, ce qui m'a intéressée en fait quand je suis arrivée de la mode et que je me suis dit j'ai envie de travailler dans le culinaire, j'avais vraiment cette volonté et cette envie de travailler avec les chefs. J'étais vraiment focus
sur les chefs.
Les chefs, et en me disant en fait, moi je vais pas passer un CAP de cuisine ou de pâtisserie et tout faire moi-même, produire la nourriture, parce que c'est pas ça qui m'intéresse. C'est de co-créer des choses avec des gens qui ont un talent qui est complémentaire au mien. Et moi, si à 30 ans, je me mets à me former, en fait, j'aurais jamais le niveau de technicité et d'excellence qu'ils ont. Donc, je voyais vraiment ça comme une co-création. Ouais. Et de se dire, on a des visions, des métiers différents, et ensemble, on peut se compléter.
Ouais, tout à fait.
Et je suis un peu arrivée en me disant, ça va être comme dans la mode ou dans les métiers créatifs, où avec un book, on montre ce qu'on a envie de faire, ce qu'on sait faire, et les gens se projettent dans ce qu'on peut faire ensemble. Et ça a été... très compliqué parce que dans ce milieu-là, c'est pas du tout comme ça que
il fonctionnait pas comme ça.
Et donc c'est comme ça en fait que petit à petit j'ai créé les cahiers d'inspiration qui était un modèle
transposé
j'utilisais dans la mode, en me disant en fait on demande aux chefs d'être créatifs.
Mais ils n'ont pas d'outils.
Ils n'ont pas d'outils comme on peut avoir dans la mode, qui fait gagner du temps, en fait. C'est juste ça. Ça n'enlève pas la créativité. C'est tout simplement que ça donne des idées, des orientations. Ça permet de se plonger dans des univers assez rapidement, sans se dire je vais peut-être aller au musée, puis je trouverai peut-être une idée. Là, c'est se dire je feuillette quelque chose et mon cerveau va se mettre dans un état de créativité. Le premier pivot que j'ai fait, en fait, c'est de me dire je peux pas juste arriver en disant je suis cette personne et imaginons ce qu'on peut faire ensemble, mais j'arrive avec un produit et là ils se sont plus projetés dans ce que je pouvais effectivement faire de spécifique.
D'accord.
Pour eux, et il y en a eu qui n'ont pas eu envie d'acheter les mêmes cahiers que, ouais, que le confrère, le voisin, donc ils m'ont demandé des choses différent. Sur mesure, ouais. En fait, par rapport à un sujet qu'ils avaient. Et c'est comme ça, en fait, que petit à petit, j'ai okay. réussi à être référencée dans le design culinaire, mais vraiment au service du chef du restaurant.
Et pour revenir sur votre parcours, vous étiez donc styliste dans la mode. Vous avez fait ça pendant combien de temps?
Parce que vous êtes... Une grosse dizaine d'années, en fait. Et j'ai glissé. Je me suis formée au design culinaire pendant que j'avais encore des contrats en freelance ouais. dans la mode. Et j'ai monté le studio Exquisite en 2014, ouais. où j'avais encore quelques contrats pour des marques.
Et qu'est-ce qui a provoqué ce glissement? C'est des intérêts personnels? C'est envie de changer d'univers? C'est déjà des liens que vous aviez repérés entre gastronomie et mode, et etc. Ou qu'est-ce qui a...
Il y a eu une très grosse part d'intuition. Ouais. Enfin, je sentais que j'étais attirée par l'univers du culinaire. C'était au tout début, enfin, Top Chef à 15 ans, et c'était il y a 15 ans que j'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là. Donc, et je voyais que j'étais scotchée devant ma télé, devant ce que faisaient les chefs, alors que d'habitude, je ne regardais jamais la télévision. En fait, j'étais fascinée. Je me disais, ils font la même chose que moi avec des couleurs, des matières, mais en plus, il y a le goût. Donc, je trouvais ça hyper intéressant. Et après, la mode, bon, bah, c'est un milieu qui est particulier, où je ne me voyais pas vieillir, en
D'accord.
fait. Donc, je pense que je sentais qu'il fallait C'était que je trouve autre
nécessaire
chose
de bifurquer.
Ouais. Alors après, quand je dis qu'il y avait beaucoup d'ego dans la mode et que je suis allée travailler avec les chefs, ça, oui. ça paraît pas forcément hyper logique. Mais il y avait cette notion, en fait, dans le monde du restaurant, et vraiment d'hospitalité qui m'a attirée. C'était de se dire, on va manger chez quelqu'un, c'est quelqu'un qui nous reçoit, qui nous accueille, on sait qu'il est en cuisine. Enfin, il y avait une notion qui était beaucoup plus de proximité qu'avec une marque ouais. ou un créateur de mode.
Et puis c'est vrai que même si l'ego, effectivement, est quelque chose de très important dans la gastronomie, il y a quand même avant tout cette notion de recevoir, ouais. d'accueillir, de prendre soin des gens qui viennent chez vous, etc. C'est vrai. Pour faire ce passage, vous avez fait des études, hein, parce que vous êtes passé par une formation à l'ESSAD, où vous avez croisé donc Marc Bretillot, si je ne me trompe pas. Ça vous semblait nécessaire de vous former à ces spécificités, à ces techniques, ou ça peut être possible d'y aller voilà, avec son expérience dans la mode? Cette formation, elle vous semblait incontournable? Avec le recul, enfin, j'imagine que si vous l'avez fait, oui, vous en aviez besoin, mais avec le recul, comment est-ce que vous voyez ça?
Effectivement, je pense qu'avec le recul, je me dis j'aurais très bien pu m'auto-proclamer ouais. designer culinaire, et il y en a qui le font
ouais,
maintenant sans reprendre une formation et qui se disent designer culinaire. Moi, je pense que j'avais besoin, enfin, c'est un peu le syndrome aussi de la bonne élève qui veut se rassurer, qui se dit bon, bah, si je change de milieu ouais. et de voie, il y aura toujours cette étiquette quand même, je suis passée par les SAD. Puis, quand même, mine de rien, pendant un an, pouvoir discuter avec Marc Bretillot toutes les semaines sur un projet qu'on vient développer, c'est quand même hyper enrichissant.
J'imagine, ouais.
Et même si je m'étais fixé, moi, des objectifs de, à la fin de l'année, avoir mené un projet à bien, etc., je ne l'aurais pas autant avancé que si... Là, en fait, c'était vraiment une année de recherche. Donc, on arrivait avec un projet et on avait les moyens de l'école
ouais.
À disposition pour mener à bien ce projet, avec quand même un diplôme à passer à la fin de l'année. Donc,
ouais, avec des enseignements, un cadre, un diplôme.
Il y a un engagement. Diplôme. Alors, c'était pas une formation hyper scolaire où il y avait des cours très théoriques. Moi, je pense que c'est ce qui m'a un peu manqué. C'est que je me suis dit, bon, bah, si je retourne à l'école à 30 ans, j'avais aussi cette envie
de théorie
qu'on
et
me
de...
donne des ouais. choses en retour.
Logique.
Et là, tout ce que j'ai appris, en fait, je suis allée le chercher toute seule.
D'accord.
Mais ça a été hyper formateur, et j'aurais jamais développé le projet que j'ai développé pendant cette année-là si je l'avais fait toute seule chez moi, en fait.
C'était donc, quoi ce projet?
J'avais une réflexion autour du temps, la notion d'éphémère dans la mode et dans la cuisine.
D'accord.
Et ce qui me paraissait fascinant dans la cuisine, c'était de pouvoir arrêter le temps avec tous les principes de conservation.
Ouais.
Donc j'ai fait beaucoup d'expériences sur toutes les manières d'arrêter le temps. Et j'ai eu une fascination assez profonde pour la déshydratation, que je trouvais hyper esthétique, qui m'ont ouais. emmenée dans des univers imaginaires... assez fantastique, et j'ai relié ça aussi à ma pratique dans le textile et dans la mode, où du coup j'ai créé une collection d'accessoires culinaires, des accessoires déshydratés qui étaient stockés comme on peut avoir un paquet de biscuits dans son placard, mais qui vient poser une dentelle ou quelque chose d'extrêmement fin et délicat sur un plat du quotidien et qui nous permet de changer de perception sur un boudin aux pommes ou sur un steak tartare.
D'upgrader.
Voilà, et de se dire, mon plateau télé, je le regarde différemment parce qu'il devient sexy. Et après, le principe de l'accessoire étant de ne pas être uniquement dans le visuel, mais dans la fonction aussi. Mmh. Enfin, un accessoire, ça sert à quelque chose quand même, c'est pas juste du décor. Ouais. Donc, il y avait une fonction d'assaisonnement.
Okay.
Ça venait complémenter l'assaisonnement des plats sur lesquels on pouvait le poser.
Et donc, avec cette idée aussi de réflexion sur les saisons qui est liée à la gastronomie ou pas spécialement? Parce que tout ce qui est temps, éphémère, saison, etc., c'est des choses qu'on retrouve énormément en cuisine.
Moi, c'est effectivement quelque chose qui m'inspire depuis toujours et je suis très aussi inspirée par l'univers du Japon. Donc, c'est vrai que les saisons...
Ryoko Sekiguchi.
Sont très présentes dans tous ces questionnements créatifs. Là, sur ce sujet-là, justement, ce qui m'amusait, c'est de se dire, en fait, on peut arrêter le temps. Et on peut manger une tomate en plein hiver si on l'a conservée d'une manière. Façon.
Ouais, tout à fait.
Donc, c'était vraiment dans cette optique-là.
Ok. Et donc, c'est là que vous avez rencontré Marc Bretillot. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Donc, c'est une personnalité qui est pas forcément très connu du grand public, mais qui est très connu des gens du milieu de la gastronomie. Donc c'est un peu le pionnier, je pense, du design culinaire. Vous pouvez nous le présenter en quelques mots?
Oui, en fait, Marc, il vient du design, il est designer,
ouais.
De base. Et il a monté à l'ESSAT de Reims, il avait un cours sur les matériaux, et pour expérimenter les matériaux avec les étudiants, il a un jour eu l'idée de... prendre des poireaux, des carottes pour tailler la matière, créer des tuyaux. Et c'est un peu comme ça que le design culinaire est rentré dans cette école et dans sa pratique. Parce que c'est aussi un très bon vivant, il aime manger et il aime s'amuser. Donc ça l'a beaucoup amusé de voir aussi à quel point autour de la table, quand on commence à faire des choses qui changent un peu avec des aliments, on fédère, on crée des discussions. Donc c'est lui qui a mis ce mot sur cette discipline du design culinaire. Et en fait, il a formé en créant cette section à l'ESSAT, parce que du coup, l'atelier matériaux est devenu un atelier de design culinaire. Et il a formé une génération de designers culinaires. Donc en fait, il a donné un nom à son métier, à sa pratique. Et derrière, il y a des personnes qui se sont formées et qui ont adopté les mêmes façons de faire. Donc, il a créé comme ça une génération de designers qui s'intéressent à cette pratique.
Et puis, il a aussi théorisé les choses. Mmh. Parce que c'est vrai que, vous l'avez dans plusieurs interviews, vous le dites très bien, la forme de ce qu'on mange a toujours existé. Ça remonte à très longtemps, le fromage, l'histoire du fromage, les pâtes, etc. C'est des choses... qui ont une forme, et c'est pas anodin, c'est travaillé, mais c'est plus le fait de le conceptualiser, d'en faire un métier, parce que finalement tous les chefs, tous les gens qui travaillent la nourriture font du design culinaire depuis toujours, donc c'est vraiment ce côté professionnalisation.
Et puis d'y mettre, je pense, une dimension, en fait les formes de ce qu'on mange sont très... j'allais dire instinctive, intuitive, on sait que ça fonctionne comme ça depuis la nuit des temps, donc on reproduit des schémas. Je pense que le designer, du coup, il vient s'interroger sur pourquoi cette forme et qu'est-ce qui se passe si je fais différemment. Et du coup, si je fais différemment, qu'est-ce que ça invente de nouveau donc il vient peut-être parfois remettre en question des choses qui sont automatiques et aussi, parfois aussi, conserver ce qui fonctionne sans tout révolutionner. Mmh. Donc, c'est là où c'est pareil. Hein, quand un designer design une chaise, la chaise à deux pieds, ça marche pas, quoi. Donc, il faut se faire une raison aussi sur ce qui fonctionne et sur ce qui fonctionne pas.
Non, et puis, je repense à un exemple que j'ai trouvé assez fascinant et assez parlant. C'est l'exemple du millefeuille qu'on essaye de couper, le millefeuille traditionnel qui ne se coupe pas, qui finit en charpie à chaque fois qu'on essaye de le couper. Et donc, c'est Marc Bretillot, d'ailleurs, qui, pour le bon marché, pour la pâtisserie du bon marché, l'a redessiné dans une verticalité pour qu'on puisse le couper. Oui. Et ça semble... c'est génial comme idée,
Et c'est souvent... on a souvent la sensation que le designer a des idées qui sont extrêmement simples et que tout le monde peut avoir. Mais c'est juste que, on va oser dire, le millefeuille, pourquoi on le met à l'horizontale et on ne le mettrait pas à la verticale? Oui, c'est tout bête, mais en fait, ça change complètement l'usage. Ouais. Et en plus, le designer travaille aussi beaucoup avec l'imaginaire. Là, dans la notion de millefeuille, en le mettant à la verticale, il ressemble
c'est
à
un livre plus
et
que.
Ouais. Il y a voilà, cette idée de millefeuille qui fait encore plus penser à un livre. Donc, on est aussi beaucoup dans des convocations d'images par les mots qu'on vient poser sur les projets, par la façon de les présenter, de les raconter.
Et aujourd'hui, ces dernières années, les chefs, les cuisiniers racontent beaucoup plus leur histoire, l'histoire des gens avec qui ils travaillent, ils font des livres, on est vraiment beaucoup plus dans cette narration. Est-ce que c'est quelque chose qui nourrit aussi votre métier? Est-ce que du coup vous êtes plus demandé peut-être parce que faut expliquer, parler, construire du discours? Est-ce que vous le sentez ça au niveau de votre profession?
Oui, alors effectivement, quand je travaille dans le contexte d'un restaurant avec un chef, il y a une grosse partie aussi d'écriture et de choix des mots et de pourquoi on décrit un plat comme ça et pas comme ça, ou qu'est-ce qui se passe si on appelle un plat pas forcément avec la description de ce qu'on mange, mais avec un nom qui est évocateur d'un paysage.
Ça, le travail sur les noms des plats, etc., ça fait partie de ce que vous faites aussi?
Oui, moi, c'est vraiment un peu le cœur de mes points de départ, d'inspiration et de réflexion. C'est aussi comment on raconte un plat. C'est une partie de storytelling, puisqu'on est dans l'idée de raconter.
Tout à fait.
Après, si on le raccroche à cette idée de venir ancrer aussi ça dans une expérience qui se raccroche à tous les sens, pour moi, on va plus être dans l'idée de story living, c'est-à-dire faire vivre une histoire, une expérience, plutôt que uniquement le raconter, en fait. Parce que parfois, la petite histoire qu'on vous raconte à chaque fois qu'on vous apporte une assiette, ça peut être aussi, suivant comment c'est fait, c'est pas forcément vivant. Donc l'idée, c'est de réussir à embarquer les gens dans un imaginaire, dans une image. Parfois, c'est juste deux mots, en fait, et il n'y a pas besoin justement de réciter un paragraphe entier pour expliquer un plat. Et juste deux mots ultra percutants, ça va tout dire.
Et ça, j'imagine qu'il y avait un vrai besoin. Donc, quand vous avez créé votre studio, c'était Exquisite, donc il y a 10 ans. Les chefs sont venus vous voir spontanément ou est-ce que vous avez plutôt été présenter votre travail? Je crois qu'il y a une rencontre qui a été assez décisive avec Alexandre Gauthier de la Grenouillère, qui lui a adhéré tout de suite et vous avez collaboré très rapidement. Il a compris. Mais est-ce que certains n'ont pas compris? Est-ce que vous êtes heurté à une incompréhension, un rejet, des refus même un peu violents? Comment ça s'est passé au début?
Oui, ça a clairement pas été facile. Et effectivement, moi, quand j'ai tout de suite présenté mes cahiers à Alexandre, qui m'a dit « c'est génial, je prends » et tout, je me suis dit « super
ouais, !» Super, c'était hyper encourageant.
Pour moi, c'était... J'ai visé juste, sauf que Alexandre Gauthier, c'est quand même un chef qui est extrêmement visionnaire et que du coup, c'est un des premiers à avoir compris, adopté cette façon peut-être d'envisager les choses et de travailler. Mais tout le monde n'a pas suivi en se disant « super, il y a Alexandre, on va faire la même chose ». Il y a eu beaucoup de pédagogie à faire, à expliquer aussi à quoi ça peut servir. Ça reste aussi un investissement financier. Donc, et jusqu'à présent, on s'en passait. Donc c'est toujours compliqué d'expliquer que maintenant, il va falloir investir là-dedans et que ça peut faire vraiment la différence pour le client final. En 15 ans de Top Chef, moi, j'ai regardé beaucoup l'évolution et je trouve que même dans une émission comme ça, télévisée grand public, maintenant, je vois des épreuves où je me dis, ça y est, le design culinaire, c'est arrivé jusque-là, en fait. Et même dans des jeux comme ça, télévisés, où on crée, on a très peu de temps, on attend quand même aussi des candidats qui créent à la fois un plat, mais aussi qui réfléchissent à comment on va le manger, qu'on va se brûler en attrapant le truc. Ouais. Ça fait partie de l'expérience à table qui va contribuer au souvenir qu'on va garder d'un plat, complètement.
Ouais. Et ça, vous avez senti une influence ou un glissement du comportement des chefs à partir du moment où ça a été médiatisé, où c'était complètement rentré dans les pratiques grand public comme à la télévision, ça a dû aider. Vous l'avez senti ou pas forcément?
Alors pour moi, c'est pas tant parce que les chefs vont tous dire qu'ils regardent pas Top Chef.
Ouais, donc, bien sûr.
Donc voilà, c'est dans ce milieu-là, on ne regarde pas Top Chef. Mais moi, je trouve ça quand même intéressant de voir comment les choses s'infusent à travers ce genre d'émission.
Ouais.
Pour moi, le point de bascule, ça a été le Covid et le confinement, la fermeture des restaurants.
Ouais.
Les chefs se sont dit, bah, en fait, les gens ont vu qu'on pouvait vivre sans aller au restaurant, ont réappris à faire à manger chez eux, etc. Donc, quand ils vont revenir chez nous, il va falloir leur proposer aussi quelque chose. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on a entendu pour moi, dans la bouche de tout le monde, le mot « expérience
ah », ouais.
Qui maintenant est très, très galvaudé. C'est qu'on ne va plus manger au restaurant, on va vivre une expérience,
ouais,
il faut proposer
fait.
Une expérience. Et pour moi, le virage s'est fait à ce moment-là où on s'est dit, bon, bah, ok, on va rouvrir, mais qu'est-ce qu'on propose de nouveau, différent? Pourquoi on va revenir chez nous et pas chez ouais. notre confrère? Moi, c'est à ce moment-là aussi que j'ai compris que c'était en parlant de ce qui se passe aussi autour de l'assiette que j'allais pouvoir mieux m'exprimer dans le cadre du restaurant.
Ouais, je comprends. C'est intéressant, ça, ce changement de paradigme. Et est-ce que toutes les questions liées à l'écologie, au développement durable, est-ce que c'est des choses que vous intégrez et surtout qu'on vous demande d'intégrer? Parce qu'il y a aussi une production, beaucoup de discours autour de l'engagement à plein de niveaux. C'est quelque chose que vous avez intégré dans votre pratique? On vous sollicite pour ça aussi ou ça s'est fait naturellement de votre côté?
Alors moi, on me sollicite pas spécifiquement pour ça. Moi, j'ai envie de dire ça, c'est en fait, c'est pour moi, c'est la base.
C'est la base, ouais.
C'est, on peut plus s'en passer. C'est comme ça, et on ne devrait même plus, pour moi, avoir à communiquer sur ça. Et c'est pour ça que l'expérience, elle doit être au-delà de, c'est le petit producteur d'à côté, etc. Enfin, si on n'a pas autre chose à nous raconter que ça, c'est là où je pense on va commencer à s'ennuyer parce que. Alors, c'est pas la norme de partout et c'est encore très bien qu'on valorise tout ce cheminement qu'on fait pour se remettre au service du vivant, d'une agriculture qui respecte la nature, etc., les saisons.
Oui, mais même, par exemple, je pense au plastique en cuisine, au téflon. Enfin, je crois que dans les restaurants, il n'y en a pas trop. Mais... Enfin, voilà, des questions au-delà, en fait, de ce qu'on mange, mais vraiment de leur pratique générale. C'est quand même pas simple. Enfin, il y a plein de chefs très regardants là-dessus qui disent que, par exemple, enlever le plastique, c'est très compliqué. C'est des discours qui ne sont pas forcément très grand public non plus, parce que, bah, en fait, quand on vient au restaurant, c'est pour bien manger. C'est pas pour avoir un discours sur en quoi sont les matériaux des boîtes. Voilà. Donc, est-ce qu'à ce niveau-là, vous avez une pierre à ajouter à l'édifice ou vous êtes beaucoup plus dans le global et
c'est une des pièces du puzzle j'utilise dans les clés d'amélioration qu'on travaille. C'est-à-dire que avoir des idées sensationnelles pour faire des beaux dressages, si c'est pour faire de la ballotine dans du sel au frais, j'estime qu'il vaut mieux trouver une autre idée en fait.
Ouais, tout à fait.
Donc ça fait vraiment partie des choses qui pour moi en fait sont intégrer dans des valeurs à respecter. Ouais. Du coup, c'est pas ce que je revendique en premier.
Oui, c'est
parce
pas le cœur du discours.
Voilà, ça fait partie d'un tout et d'un processus global, en fait, de se dire, quand on design quelque chose, ça veut dire qu'on réfléchit à comment on fait les choses, on se pose des questions. Donc, l'idée, effectivement, c'est de bien faire les choses en respectant le client, la planète, notre corps, enfin, tout. Donc, ça fait forcément partie des questions qu'on se pose. Et si on voit que pour réaliser une super idée, on va jeter tous les menus, tous les jours, et qu'on va les... Enfin, en fait, ça fonctionne pas.
Ouais. Mais c'est intéressant parce que, par exemple, dans l'événementiel, dans beaucoup de métiers de l'événementiel, il y a encore énormément de gâchis, on jette plein de choses et c'est pas du tout intégré dans leur pratique, même dans le luxe, etc. Donc,
Et moi, je pense que c'est pour ça aussi que il y a beaucoup de designers culinaires qui ont comme terrain d'activité l'événementiel. Ouais. Moi, j'en ai fait un tout petit peu au début, en 2014, on avait organisé les 5 ans du Centre Pompidou à Metz. Et en fait, j'ai tout de suite vu justement
la débauche
d'énergie, de temps, de moyens, de déchets pour des choses qui durent si peu de temps. Et c'est pour ça que ça m'intéresse vraiment de travailler dans le contexte du restaurant, parce qu'on est dans quelque chose qui est pérenne, en fait. On réfléchit
des
à des systèmes qui
longs,
doivent fonctionner tous les jours, deux fois par jour, pendant plusieurs semaines, voire saisons. Et ça, moi, ça rejoint aussi ce questionnement que j'avais eu sur l'éphémère.
Ouais.
C'est comment on travaille tous les jours dans l'éphémère, mais en même temps, on crée des systèmes qui fonctionnent. Enfin, dans la mode, c'est pareil, quand on crée une collection, on a des bons pions, des bonnes bases qu'on réutilise. On change la couleur, on change le tissu, on change la matière. Et c'est cette logique-là aussi que j'aime bien réutiliser dans le contexte du restaurant. C'est se dire comment on a un élément qui parle de l'ADN, l'identité d'un chef, et comment au fil des saisons, justement, on le décline, on le fait évoluer, mais on ne fait pas table rase, en fait, à chaque fois.
Oui, bien sûr. Et est-ce que vous diriez que vous faites un métier de l'ombre, c'est-à-dire est-ce que les chefs vont facilement dire que vous travaillez avec eux, etc. Ou alors est-ce qu'au contraire c'est un peu caché, faut pas trop dire, parce que vous parlez beaucoup d'Alexandre Gauthier, mais finalement pas de tant d'autres collaborations. Est-ce que c'est par discrétion? Est-ce que c'est parce qu'il y a une volonté du chef de rester lui maître, de se mettre en avant? Comment est-ce que vous évaluez tout ça?
Bah, y a effectivement un peu de ça, et je pense que c'est ce qui rend aussi le métier compliqué, parce que déjà c'est un métier qui est pas ou peu connu, pas ou peu compris.
Ouais.
Et en plus de ça, en tout cas, moi, en le mettant au service de chef et de restaurateur, je suis au service. Ouais. Donc, moi, j'estime aussi que je ne suis pas là pour signer une expérience, une carte. Enfin, je viens aider quelqu'un à mieux s'exprimer, à mieux mettre en valeur ce qu'il fait. Mais c'est toujours la difficulté aussi de
trouver sa
place. À quel moment je trouve ma place et je peux dire ce que j'ai fait. C'est cette difficulté aussi de... Bah, une idée n'appartient à personne.
Ouais.
Mais bon, en général, quand il y a une bonne idée, on sait quand même d'où elle vient. Mais c'est difficile de revendiquer cette idée-là, c'est moi qui l'ai eue.
Oui, bien sûr.
Pour moi, c'est du coup assez complexe aussi de communiquer clairement sur ce que je fais.
Voilà.
Parce que c'est pareil, quand je change la lampe, le tableau, d'un côté, ça va être ça, puis dans un autre sens, ça va être le menu. Donc, c'est jamais hyper, hyper clair, même s'il y a un avant-après que je sois passée.
Bien sûr.
Et voilà, on travaille avec des gens qui sont chez eux, qui ont aussi un ego, et qui sont pas là pour co-signer, en tout cas.
Ouais, donc c'est plutôt clairement de l'ombre.
Donc, c'est clairement un métier de l'ombre. Et moi, c'est ça aussi, je pense, là, après 10 ans que j'essaye de faire aussi évoluer, c'est d'arriver, moi, à mieux trouver aussi ma place dans ce que je peux apporter et faire, en étant justement moins dans du conseil, de la prescription, de la mise en relation avec la bonne personne, mais aussi trouver comment moi, par exemple, je peux m'exprimer, apporter une valeur ajoutée. Par exemple, s'il faut changer le tableau, dire je peux faire quelque chose. Être aussi plus force de proposition dans ce que je peux faire très concrètement pour sortir un peu de l'ombre.
Ouais.
Et c'est pas tant juste une histoire de passer de l'ombre à la
lumière.
Non, mais
produire et créer pleinement.
Mais de moi aussi sentir que j'ai quelque chose de palpable, en fait, à montrer. Parce que même si moi, je sens que j'ai travaillé sur quelque chose d'imperceptible et que les gens qui connaissent le restaurant avant et après me disent « oui, on sent la différence », c'est hyper difficile pour moi, par exemple, de mettre sur mon site internet ce que j'ai fait.
Ouais, je comprends.
Parce que c'est impalpable.
Ouais.
Du coup, j'ai envie de plus aussi rentrer dans la matière et de refaire des choses peut-être plus manuelles et de plus m'exprimer aussi, moi, en tant qu'artiste, en fait.
Ouais, je comprends. Et est-ce que des fois, il y a eu des choses où c'est allé dans le mur, des collaborations où vous arriviez, il y avait une incompréhension totale avec la personne? Parce que j'imagine que c'est pas évident que ça colle dans les goûts et... J'ai vu des photos de plats, en fait, là, juste avant de venir, d'un restaurant très connu, un chef très, très connu, et je trouvais que ça ressemblait à rien. C'était vraiment pas beau, selon mes critères. Est-ce que, parfois, ils veulent juste pas l'entendre, en fait, quand on essaye de les conseiller, ou ils sont pas prêts à l'entendre? Est-ce que vous avez eu des cas de figure un peu compliqués à gérer comme ça?
Alors, j'ai pas eu des cas de figure compliqués comme ça à gérer, mais c'est ce qui complique, en fait, mes collaborations. C'est parce que moi, en gros, je vais arriver vers un chef en lui disant « bah voilà, je suis venue manger chez toi, j'ai vécu l'expérience que tu proposes, et je pense qu'il y a ça à améliorer. » Donc, j'arrive tout de suite
avec un
regard critique en disant « il y a des points d'amélioration et je sais comment faire, en fait. » Donc, j'arrive pas comme un photographe qui vient travailler avec un chef et qui est juste là pour faire une super belle photo et magnifier le travail et dire « c'est super ce que tu fais, regarde comme c'est beau. » Donc, j'arrive avec une approche qui est déjà « en fait, on peut mieux faire. » Alors, déjà, des chefs qui ont 3 étoiles, ils vont se dire on peut mieux faire, pourquoi? Donc, il y a tout ce truc-là. Après, le chef qui cherche l'étoile supplémentaire, il peut toujours avoir envie de mieux faire et dans ce cas-là, se dire oui, pourquoi pas. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé quand même, justement, à la sortie du Covid, du confinement, et quand j'ai commencé à parler de cette expérience autour de l'assiette avec Hélène Luzin, elle m'a dit mais complètement. Là, effectivement, il y a quelque chose à faire parce que moi, on m'appelle pour donner des conseils sur les goûts, les textures, vraiment l'expérience que note le Michelin très concrètement. Mais moi, je vois aussi tout ce qui pêche autour. Et moi, ça, par contre, je ne sais pas conseiller et comment faire mieux. Donc, en fait, Hélène m'a appelée sur des projets quand elle voyait qu'il y avait un truc à faire.
Ouais. Ah, c'est chouette, ça.
Et,
ouais.
Et à ce moment-là, ça a été beaucoup plus facile pour moi.
Oui, parce qu'en plus, vous étiez introduite par Hélène.
Parce que, c'était Hélène qui disait, il faut travailler avec Marion. Et du coup, on m'écoutait.
Ouais, c'est ça.
Ce que je disais, ce que je ressentais, était écouté, perçu et mis en action. Derrière, voilà, c'était validé aussi par quelqu'un qui est reconnu dans le secteur, dans le métier, quelqu'un de référence, et qui disait, bon, oui, l'assiette, c'est OK, mais tu n'iras pas plus loin si tu n'améliores pas aussi ce qui est autour. Donc là, pour moi, ça a été, ça a été
un déclic,
et ça a été hyper agréable pour moi, parce que dans ces moments-là, vraiment senti que je pouvais m'exprimer à ma juste valeur.
Ouais. Une vraie expertise, une vraie attente aussi.
Il y avait une attente,
un besoin,
une
attente, un échange. Ouais.
Et un vrai dialogue. Ouais. Donc ça, c'était... Et j'arrivais pas en disant il faut changer tout ça. Enfin, c'était on apportait des solutions.
Et
il y avait un engagement de l'autre côté à mettre en action ce qui était proposé. Donc c'était pas au forceps à dire il faudrait changer ça. Et puis on n'a pas trop envie, du coup on le fait pas. Et du coup, moi, je sais ce qui continue de bloquer, mais je peux pas forcer les gens.
Non, bien sûr.
Donc, en fait, il faut qu'il y ait une envie mutuelle de faire avancer les choses.
Après, j'imagine que ça change énormément d'un univers à un autre. Je pense au chocolatier, par exemple, et à Patrick Roger, que vous avez interrogé, et que j'ai interrogé aussi, qui décrit sculpteur, etc. Qu'on fasse du chocolat, on bascule dans des univers peut-être beaucoup plus esthétiques. Est-ce qu'ils vont plus chercher, s'il y a des univers où on vient plus chercher votre expertise, ou pas spécialement, parce que c'est peut-être très propre à Patrick Roger, qui, je pense, n'a pas trop besoin de conseils ou ne doit pas trop en demander, d'après ce que j'ai perçu. Mais peut-être d'autres sont plus en recherche de conseils. Vous avez perçu des univers comme ça où il y a une attente au niveau de la forme beaucoup plus forte?
La pâtisserie, c'est quand même un domaine où effectivement on construit beaucoup les choses. Il faut que ça tienne, notamment la pâtisserie boutique. Donc il y a une réflexion aussi sur la structure, la forme, etc. Donc, il y a effectivement plus de place pour le design. Ouais.
Mais ils ont l'habitude de faire appel à des designers ou...
J'ai beaucoup fait, du coup, pour de la pâtisserie, du mood board et de l'inspiration. Ouais. C'est-à-dire orienter une plateforme de marque, dire par rapport à votre image, votre gamme de pâtisserie, vous pouvez la faire évoluer dans tel style au fil des saisons, justement, quels sont les bons pions qu'on fait évoluer, etc. Après, en ce qui concerne la forme, ils vont aller travailler directement avec le fabricant de moules.
D'accord.
Ça, c'est des contraintes aussi qui sont des contraintes économiques. Moi, j'adorerais suivre la fabrication du moule et dire on est sur le bon concept, mais par contre, ça se découpe pas bien.
Intéressant, ça.
Poussons les choses jusqu'au bout. Enfin, le designer va vraiment aller chercher le truc pour que l'expérience soit fondamentalement parfaite, entre guillemets. Même si la perfection, on n'y touche jamais, mais en tout cas, on va avoir un sens de l'exigence qui va prendre beaucoup plus de temps, souvent aussi que le temps qu'on va réellement avoir quand on est dans un rétro-planning de pâtissier ou de chocolatier. C'est vrai que c'est des métiers où on anticipe moins que dans les métiers de création pure où on
après ils marchent quand même, ils marchent beaucoup avec les collections, que ce soit pour leur bûche, leur galette des rois, un an avant ils ont déjà sorti les
alors
collections.
De plus en plus effectivement on a intégré que effectivement on s'y prend pas juste avant pour sortir quelque chose. Ça, toute cette course qu'il y a eu autour justement des collections de Pâques, de galettes,
Et ça donne aussi du temps pour vos métiers d'intervenir, j'imagine. Mm. Ouais. Comment est-ce que ça se passe concrètement, le travail de recherche? Alors, par exemple, sur un dessert, est-ce que vous allez donner aussi votre avis au niveau du goût? Parce que les deux sont intimement liés. Concrètement, ça se passe comment de construire une collaboration?
Concrètement, moi, j'ai besoin de vivre l'expérience comme un client classique. Donc ça, c'est pas la partie la plus désagréable du travail. C'est-à-dire que je demande à être reçue comme une cliente et vraiment qu'on me raconte, qu'on me fasse vivre, que du coup, que je goûte, que tous mes sens, en fait, soient testés sur ce qu'on me propose de vivre. Et après, venir effectivement dire, moi, j'ai pas compris entre ce qu'on m'a dit et le goût que ça avait.
D'accord.
Là, tu me dis après coup, en off, que c'est du miel que tu fais dans avec tes abeilles. À aucun moment, on me l'a dit en salle. En fait, c'est venir détecter tous les petits signaux les de petits choses à côté desquels on passe ou qui sont pas logiques et faire en sorte que justement on exploite le plein potentiel de tout ce qui se fait en arrière-plan, ouais. dans la cuisine, dans le jardin, dans la relation avec les producteurs.
Ouais, partir de l'expérience, ouais. relever tout ce qui ne fonctionne pas et donner des pistes d'amélioration.
Et à partir de ça, voilà, donner des pistes d'amélioration, que ce soit dans le storytelling et dans la matière, c'est-à-dire aussi... la question était aussi, est-ce que j'interviens sur les goûts ? Bah, quand même, clairement, en général, je bosse avec des chefs qui font des trucs qui sont bons. En fait, c'est là où moi, j'ai une valeur ajoutée aussi, c'est dire... vous faites des choses exceptionnelles. Par contre, il y a des choses, c'est moins votre métier. La cuisine et tout, vous maîtrisez complètement. Donc là-dessus, moi, je vous fais confiance. Par contre, il y a des petites choses qui desservent justement le fait que ça soit très bon parce que, on vous donne une verrine, un granité à manger. Des fois, c'est tout bête, hein, mais j'ai pu aller dans un restaurant 3 étoiles hyper médiatisé, etc. On nous apporte une petite verrine avec un granité et la cuillère qui ne rentre pas dedans. Et du coup, on finit pas ce qu'on nous a proposé. Et le serveur dit « vous n'avez pas aimé ». En fait, non, la cuillère est trop grosse. Donc, à un moment donné, est-ce que vous vous mettez, vous, à la place du client et de regarder si l'outil que vous lui donnez est pratique et agréable ? Des fois, ça, c'est de cet ordre-là. Ouais. Hein. Donc, c'est vrai qu'appeler quelqu'un pour se faire entendre dire qu'il faut changer la petite cuillère, je pense que ce n'est pas hyper agréable. Mais pour le client, ça change vraiment l'expérience.
Et vous vous êtes amené aussi à former les équipes, le personnel de salle, parce que ça, c'est hyper important. On en parle de plus en plus aussi. C'était quand même toute une partie des métiers qui étaient un peu ignorés, invisibilisés. On en parle beaucoup plus, on les met sur le devant de la scène. Donc j'imagine que peut-être vous êtes amené aussi à leur faire prendre une place importante dans le, dans le processus.
Alors quand j'ai commencé... Effectivement, à parler de design au service du culinaire, c'était aussi pour remettre le service au centre de ma proposition, dans les mots, dans le storytelling, dans la façon de raconter, de présenter. Parce que souvent aussi, je m'apercevais qu'entre le moment que j'avais vécu à table, où j'avais testé l'expérience, et le moment après où j'échangeais avec le chef, il me disait « oui, mais ça, tu vois, ça fait comme... » Je dis « mais à aucun moment on me l'a dit. » Alors du coup, c'est la faute de la personne qui sert parce qu'il n'a pas dit. Mais je dis « oui, mais est-ce que tu lui as dit de dire ou est-ce que tu lui as raconté ton histoire pour qu'il puisse, lui, la raconter à sa façon, avec ses mots, pas juste apprendre un texte que tu lui donnes et pour le coup comprendre et habiter les choses et le raconter au client à sa façon. Et il y a eu beaucoup de moments où je fais aussi effectivement de la médiation entre la salle et la cuisine. C'est-à-dire aussi faire accepter au chef qu'il faut donner des informations à la salle. Il faut communiquer sur ce qu'on fait, il faut expliquer pourquoi, comment, et qu'il n'y a que comme ça en fait que la personne aussi en salle va s'approprier l'histoire, avoir envie de la raconter, y mettre de sa sensibilité dans ce qu'il a retenu et ce qu'il a envie de communiquer qui est important pour lui. Ouais. Donc oui, le service est hyper important dans ce que je fais et c'est pour ça qu'on travaille en général avec toute l'équipe, que ce soit cuisine et salle.
Et salle.
Que les mood boards que je propose, que je fais, soient visibles de tous. C'est pas juste des trucs qui inspirent le chef, en fait. Et c'est aussi plonger la personne qui sert dans
l'univers.
De quoi le chef est parti pour créer ce plat-là, par exemple. Chez Maximin Hélio, à Deauville, par exemple, il avait un plat qui était avec une pâte feuilletée, qui était assez abstraite dans les premières assiettes qu'il nous avait servies. Comme il est beaucoup autour du marin, du coquillage, etc., j'avais dit, là, par exemple, sur la forme... Peut-être que ta pâte feuilletée, tu pourrais la mettre pour que ça fasse penser à un coquillage. Et là, on était à la fois en travail de la forme, sans changer la recette, le goût forcément qu'il lui avait conçu au départ. Et la personne aussi qui sert pouvait l'annoncer d'une façon d'une autre, peut-être plus poétique, plus imagée.
Et vous travaillez aussi, vous l'avez un peu dit, avec Hélène Luzin par exemple, mais avec les communicants, les gens qui... sont aussi autour des chefs, les céramistes, tous les gens de l'univers qui gravitent autour des chefs. C'est des échanges que vous avez aussi avec ces milieux-là ?
Bah, en fait, en général, quand il y a un designer qui a travaillé en amont sur un projet, c'est très facile après de communiquer sur le projet et de faire des RP.
Ouais.
Parce que l'histoire est déjà là. Ouais. Et en fait, on vient
tout
pas...
est cohérent.
Ouais. On ne vient pas inventer une histoire pour parler du projet. C'est-à-dire qu'on est, parti de quelque chose de solide, d'ancré, de qui était là et on a tout développé autour de ça. Donc l'histoire derrière, on la raconte, mais on a même à peine besoin de la raconter. C'est qu'on tire un fil et il y a tout qui vient. L'été dernier, j'ai travaillé avec le bar Le Jeffrey's, l'agence Genepi, pour faire les cocktails du restaurant Les Petites Mains, qui était au Palais Galliera. Moi, j'ai dit, en fait, si on fait des cocktails dans ce lieu-là, on va aller s'inspirer... Il y a quoi dans ce musée ? C'est le musée de la mode. Donc, si une robe avait le goût d'un cocktail ou si ça inspire un cocktail, en fait, à quoi ça ressemblerait ? Ouais. Quel goût ça donnerait ? Et quel visuel ça illustre après en cocktail ? Et du coup, derrière, c'était hyper facile de faire la garniture sur le cocktail, la belle photo et d'avoir un menu très clair avec les noms des créateurs qui avaient inspiré les cocktails. Ouais. L'histoire, en fait, était déjà là sans avoir besoin de venir. Moi, ce que je supporte pas, c'est quand on vient coller une histoire sur quelque chose.
Ça se ressent,
en fait.
Bien sûr.
Et on n'est pas dans quelque chose de vrai.
Ouais, tout à fait. Par rapport à vos nouveaux projets, parce que si j'ai bien compris, vous l'avez un peu... énoncé, vous êtes en train de prendre un nouveau tournant, vous aimeriez bien remettre votre propre créativité... au centre de vos pratiques. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Comment est-ce que vous faites évoluer les choses ? Est-ce que c'est des nouveaux projets qui vont aussi être grand public ou toujours à destination du culinaire ou pas forcément ? Comment est-ce que vous positionnez vos projets à venir ?
En fait, je me réouvre. Je passais de la mode au culinaire et c'était comme presque un entonnoir où je me suis de plus en plus focalisée sur ces expériences du détail, de l'imperceptible, etc. Et je me rends compte que ça peut servir à plein d'autres métiers que les chefs et que le culinaire.
Bien sûr.
Donc j'ai envie de réouvrir aussi un peu mon champ de possibles. Alors le culinaire ça reste quand même quelque chose que j'affectionne particulièrement parce qu'il y a quand même cette relation aux cinq sens qu'on a rarement quand même dans le reste des expériences de notre vie. Donc en fait je mets pas totalement de côté le culinaire et c'est vraiment ce qui m'a construite moi ces 10 dernières années, qui m'a reconnectée à ma sensibilité, à mon corps aussi, parce que je pense que sans le culinaire j'avais peut-être pas conscience aussi de tout ce qui passe par le corps et pas seulement par le mental. Donc c'est vers ça que j'ai envie d'aller, mais ça s'adapte à plein d'autres métiers que uniquement le métier des chefs, des pâtissiers. Ouais. Et ce que je fais d'arriver à traduire en fait dans la matière l'ADN de quelqu'un, ce qui l'inspire, ce qu'il a envie de communiquer à l'autre à travers son métier, je peux aider d'autres métiers aussi à le faire. Ouais.
Vous avez des exemples concrets ou un exemple ?
Récemment, j'ai fait un dossier de présentation pour une artiste qui avait besoin de parler de sa pratique, de la façon dont elle travaille, parce qu'elle propose aussi des expériences à côté de sa pratique artistique.
Ouais.
Donc je l'ai aidée après avoir vécu l'expérience qu'elle propose. Ouais. Je lui ai dit, tu peux expliquer ça comme ça et ça parlera... beaucoup plus aux gens qui viennent vers toi pour comprendre ce que tu fais, ce que tu peux faire pour eux, à quoi ça ressemble. Donc, c'est comment on remet encore une fois dans la matière quelque chose qui est de l'ordre de l'imperceptible. Et c'est là où je dis j'ai besoin de plus m'exprimer et de retrouver une pratique aussi plus artistique. C'est parce que ce passage dans la matière, moi, pour le faire, c'est pas seulement du mood board et des mots, c'est aussi... potentiellement pouvoir produire vraiment des choses, illustrer par exemple un menu, déguster un menu et venir l'illustrer avec des collages. En fait, j'ai toujours fait ça quand j'étais enfant. Et très vite, je me suis dirigée vers des études d'art artistique, mais d'art appliqué. Donc c'était l'art qui doit servir à quelque chose. Parce que ça va te permettre de gagner ta vie, en fait, c'est ça. l'artiste, dans ma famille, était quand même un truc qui... C'est un hobby, en fait. Donc, fais d'abord quelque chose de
sérieux.
Et puis, le dimanche, éventuellement, tu t'amuseras. Mais voilà, là, j'ai envie d'essayer, en tout cas, de remettre un peu de ça aussi au cœur de ma pratique professionnelle. parce que en fait je sens que c'est aussi le cœur de mon savoir-faire, ouais. Et c'est des choses que je fais pour moi mais qui potentiellement peuvent servir les propos que je développe avec d'autres personnes en co-création, ouais. en mettant cette sensibilité-là à leur service aussi. Donc il y a quand même toujours, je ramène toujours quand même ma pratique artistique à une sorte de cahier des charges ou de travailler à la commande aussi. Mais en tout cas, d'être plus quand même dans la matière que uniquement dans l'inspiration. Parce que moi, jusqu'à présent, j'étais beaucoup dans « je vois ce qu'on peut faire et je vous donne des outils qui vous guident pour y arriver ouais. ». Donc, je vous accompagne, en fait. Je vous mets sur la voie, mais ouais. en aucun cas...
Je ne fais pas.
Je
aucun
fais
moment.
Pour ouais. vous.
Et cette envie de faire...
Voilà, petit à petit, je me suis un peu plus décrite aussi comme une directrice artistique. Donc là, il y avait quand même une notion un peu plus de direction et de dire, bon, si je vous dis de faire quelque chose, c'est quand même ouais. bien de le faire et pas juste, oui, c'est OK, et puis on verra. Mais là, carrément, je me dis, même au-delà de la direction artistique, c'est carrément proposer de faire... avec du coup ma main, ma patte, ouais. Ma sensibilité, parce que ça fait quand même 10 ans que je suis dans ce domaine-là, donc on commence aussi à me connaître et moi-même à savoir aussi quelle est ma véritable valeur ajoutée. Okay. Donc c'est ça que j'ai envie d'allier en fait. C'est pas forcément avoir un côté design culinaire plus alimentaire et un côté pratique artistique personnelle, mais je pense que les deux peuvent se nourrir.
Voilà. Ouais. Ok. Bah très bien, bah merci beaucoup pour toutes ces explications. C'était très clair.
Bon, merci.